بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc, Inch'Allah, ce soir, on va compléter le programme concernant Ya'juj ou Ma'juj. On va compléter l'histoire de ce grand signe de Qiyamah, le signe de Qiyamah le plus sanglant. Certainement, à l'époque de Ad-Dajjal, de l'Antéchrist, il y aura des guerres effroyables. Il y aura des guerres menées par Ad-Dajjal pour lutter contre chaque personne qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans son cœur. Et de l'autre côté, il y a Al-Mahdi, qui essaie de lutter, de tenir tête à Ad-Dajjal, mais qui à un moment donné, sans les difficultés, et dans les moments où les musulmans sont affaiblis, Isa alayhi salam vient et prend le relais et mène la Oumma vers la grande victoire. Donc là aussi il y a des affrontements, il y a des moments difficiles que la Oumma va connaître. Mais les affrontements à l'époque de Gog et Magog, les tueries, les carnages qu'il y aura à l'époque de Ya'juj ou Ma'juj dépassent l'entendement, dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Et le degré de force, ça on est comment j'ai. On t'attendait normalement pour commencer. Le degré de force, le degré, la puissance de ce peuple, de ces deux peuples, les Gog et les Magog, est telle que pour la première fois, Allah Azza wa Jal interdit aux musulmans de lutter. Et Allah Rabbul Izzah va demander, va inspirer donc à Isa, qui sera donc le nouveau guide des croyants, de regrouper les croyants, de les amener dans les hauteurs, dans les montagnes, dans les endroits fortifiés, afin qu'ils ne soient pas atteints par le déferlement des Gog et Magog. Donc c'est un des signes les plus effroyables, les plus sanglants, qui va donc prendre fin. Et après la destruction de Ya'juj et Ma'juj, on pourrait dire qu'il n'y a plus rien de mal parmi les grands signes de Qiyamah qui va intervenir dans ce dunya. Après, il y aura la période de paix de Isa alayhi salam, et ensuite, il y aura le départ des croyants. Les symboles de l'islam vont quitter ce dunya, et puis il y aura la fin de chaque personne qui a la ilaha illallah. Donc, la dernière grande épreuve de cette umma, c'est l'affrontement, on pourrait dire, final contre Ya'juj ou Ma'juj. On avait vu avant cela quelques textes, hein, quelques études, c'était plus des études que des textes, des études pour essayer de définir la personnalité de Dhul-Qarnayn, qui était Dhul-Qarnayn, et on est arrivé à une conclusion. On avait vu également les différentes interprétations possibles sur ces deux voyages, le voyage au levant et le voyage au couchant, et la troisième destination qui était la plus importante, le pays Bayn as-Saddayni, là où il a trouvé une population opprimée, qu'il a demandé de l'aide, qu'il a donc sollicité pour la construction d'un barrage contre une population qui avait cette réputation d'être des tueurs, d'être des semeurs de troubles. D'accord ? Et on avait vu là aussi, on avait essayé de déterminer quel est le lieu géographique, salam, et on avait essayé de comprendre également de quelle population il s'agit. Et dernièrement, juste avant, on pense les petites vacances à peu près, on avait essayé de comprendre les deux approches des savants concernant le lieu éventuel où le barrage de Dhul-Qarnayn a été construit. Et on avait vu les deux approches différentes, les deux opinions qui se dégageaient, ceux qui disaient que c'est un endroit en Asie, donc en Chine, nord-est de la Chine, et ceux qui disent que c'est dans le Caucase. Et les deux approches, ce sont des études, ce sont des ara, des opinions de savants, et Allah seul sait où se trouvent ces endroits. Et encore une fois, on le répétera jamais assez, l'objectif n'est pas de découvrir où était Dhul-Qarnayn, qui était-il, à quelle époque, qui étaient les Gog et Magog exactement. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'avoir iman sur ce grand signe de Qiyamah. Le but, c'est de réaliser qu'à la fin des temps, il y aura des événements qui risquent de mettre à l'épreuve, rudement à l'épreuve, la foi du croyant. Comme on avait vu pour Al-Dajjal, par exemple, le hadith Al-Jassasa, ça c'était au tout début, quand des compagnons étaient en mer, ils ont découvert sur une île une créature étrange, Et lorsqu'ils ont décrit au prophète Ali salatu wassalam, donc comment était cette personne, parce qu'on m'a dit que c'est exactement ce qu'Allah lui avait révélé, vous avez rencontré Ad-Dajjal, et cet homme avait dit aux sahaba, je suis l'antéchrist, je suis Dajjal, est-ce que tel signe se sont déjà produits? Si oui, sachez que mon apparition est proche. Et quand on avait vu donc cet événement-là, on avait dit que le but n'est pas de déterminer où est l'île où se trouve Dajjal. De telle sorte qu'on se dit que on n'a jamais découvert, donc peut-être que c'est pas vrai. Là, wallah. Combien d'objets, combien de personnes, combien de choses disparaissent sans qu'on ne retrouve la trace. Si on n'est pas capable de retrouver un avion avec 200 personnes, avec tous les radars, les boîtes noires et ainsi de suite, avec le soutien logistique des grands pays développés, pendant plus d'une semaine, pendant je sais pas, peut-être plus, une dizaine de jours, dites-moi, une île perdue dans le monde sans indication, là on ne peut pas dire c'est l'océan Indien, l'océan Pacifique ou quel endroit, une île sans qu'il y ait la moindre description, le moindre détail dans les hadiths, une île perdue où il y a une créature qui est cachée, enchaînée, le fait que les scientifiques ou les explorateurs, comme vous voulez, n'est pas découvert, en aucun cas, ça doit remettre en cause, l'existence de ce fait, ce que le prophète alayhi salatu wa sallam avait expliqué. Donc pareil, c'était là des approches, des études pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire, cette histoire qui est magnifique, qui est merveilleuse, merveilleuse, tragique, mais qui fait partie des grandes histoires racontées dans le surah Al-Kahf. Alors maintenant, on revient, mashallah, enfin, après des études géographiques, scientifiques, et ainsi de suite, on revient vraiment vers les hadiths, c'est ce qu'on aime le plus. On revient avec les textes prophétiques parlant des signes de la fin des temps. Maintenant qu'on a compris un petit peu le mécanisme de cette population, l'identité de ces deux populations, maintenant, qu'est-ce qu'ils font en ce moment? On a vu où est-ce qu'ils sont, on a essayé de comprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font régulièrement? Alors régulièrement, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué dans un hadith que régulièrement, les Ya'juj et Ma'juj essaient de détruire ce barrage que Dhul-Qarnayn avait construit. Mais au moment où ils ont l'impression, on connaît tous le récit, au moment où ils pensent pouvoir détruire ce mur-là, Allah Rabbul Izza ordonne à ce mur-là de retrouver son aspect initial, ce qui fait que ils ne peuvent casser, ils ne peuvent ébrécher, ils ne peuvent franchir cette barrière qu'Allah Rabbul Izza a donné le tawfir à Dhul-Qarnayn de construire. Hadith de lequel d'Abu Huraira dit « Inna ya'juj wa ma'juj yahfiruna kulla yawm » Jour après jour, ils essaient de creuser, ils essaient donc de débrécher ce mur. Et à un moment où ils sont presque arrivés et qu'ils voient, qu'ils entrevoient les lieux, la lueur du soleil, « Qala alladhi alayhim » Celui qui les dirige, leur chef dit « Irji'u fasanuhfiruhu ghada » On retourne, d'accord, on arrête et on va continuer. « Fayu'iduhu Allahu ashadda ma kan » Et Allah Azza wa Jal ordonne à ce mur, à ce barrage de se reconstituer sans qu'il n'y ait d'intermédiaire, sans qu'il n'y ait ce Dhul-Qarnayn qui a utilisé tel matériau pour construire ce barrage. Le barrage se reconstruit automatiquement et ces personnes-là restent emprisonnées parce que c'est là la volonté d'Allah. C'est là la volonté d'Allah Azza wa Jal qui n'a pas prédestiné pour eux la sortie à ce moment. Et là, il y a une petite parenthèse, les savants disent que, voyez, on a déjà expliqué un peu la force, la puissance de ces deux populations. On avait vu entre autres, subhanallah, combien leur progéniture est importante et que c'est une race de combattants. Et on avait vu un petit peu que parmi leurs descendants, il y avait les Tatars, il y avait les Mongols, des populations d'une violence extrême. On a vu un petit peu les guerres contre les musulmans en Irak et à Samarkand, qu'est-ce qu'ils avaient fait comme carnage. Donc c'est vraiment un peuple qui a été façonné pour la guerre, d'accord. Malgré leur force, subhanallah, ils n'arrivent pas à détruire un barrage qu'Allah Azza wa Jal a ordonné à Dhul-Qarnayn de construire, alors qu'ils sont en nombre suffisant pour le détruire, pour casser tout ce qui peut exister. Mais c'est là la décision d'Allah, c'est-à-dire que Allah a mis un intermédiaire qui empêche quelque chose de se produire dans le monde. Et tant qu'Allah Azza wa Jal a décidé que les choses se dérouleront de cette façon, ils se dérouleront de cette façon, même si le monde entier essaie d'inverser les asbab, essaie d'inverser les intermédiaires. On donnera un autre exemple, on vient de parler de Dajjal, on avait vu dans les leçons précédentes la force de Dajjal.
On avait vu ce qu'il est capable de faire, des trucs de malade. Et ressusciter quelqu'un qui est mort, ressusciter un troupeau qui est déjà mort de faim, de soif, c'est-à-dire des choses extraordinaires. Mais quand on voit le hadith qui explique que Dajjal est enchaîné sur une île, on est tous conscients qu'il est capable de se déchaîner. Avec la force qu'Allah lui a donnée, lui a accordée, il est capable de se défaire de ses chaînes et de commencer sa mission, tout ce qu'il a à faire dès maintenant. Mais non, il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que le moment n'est pas venu. Ce n'est pas une question de force, ce n'est pas une question de pouvoir, de possibilité, d'opportunité, c'est une question de volonté d'Allah Azza wa Jal. Et à toute échelle, que ce soit à des échelles de, concernant les grands signes de Qiyama, ou alors même dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, on peut tirer une leçon de l'impuissance des Gog et Magog face à la volonté d'Allah. On peut tirer une leçon de l'impuissance de l'antéchrist de Dajjal face à la volonté d'Allah. Également, lorsqu'à la fin des temps, Dajjal, ça c'est vraiment à la fin de sa mission, lorsque Dajjal va tuer ce jeune homme qui fait partie des Ahlul Madina. Vous connaissez cette histoire? Cet homme qui va s'interposer, va dire que tu es l'antéchrist, et Dajjal dit non, je suis Dieu, je peux donner la vie et la mort, et il va fendre ce jeune homme en deux. Ça veut dire que ça fait peur ce soir. D'accord? Pas peur? Même pas peur. Regardez mon gars plus dangereuse. Il va fendre ce jeune homme en deux et il va marcher entre les deux parties de son corps pour montrer que je lui ai donné la mort. Et avec la qudrat d'Allah, qui lui a donné ce pouvoir, il va redonner vie à ce jeune homme. Et là, il pense qu'il va émerveiller les foules qui vont reconnaître encore plus, na'oud billah, son caractère divin. Mais ce jeune homme va dire que maintenant, et il pense que là, il a convaincu ce jeune homme aussi. Mais non, ce jeune homme va dire maintenant, j'ai encore plus de yaqin, de conviction que c'est toi Dajjal. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé exactement cet événement qu'à la fin des temps, Dajjal se présentera près de Madina, quelqu'un s'interposera, il fera ça, il lui redonnera la vie. J'ai encore plus de yaqin dessus. Donc Dajjal perd pied. Et à ce moment, il essaie de tuer une seconde fois cet homme. Mais à ce moment-là, son pouvoir lui est enlevé. Il ne peut plus le faire. C'est comme si que quelqu'un avait, je dis comme ça un exemple, une baguette magique, et tout d'un coup, cette baguette magique lui est retirée. Ou c'est comme si vous avez un appareil, qui est une batterie qui est chargée, à un moment donné, vous prenez, il n'y a plus de batterie, donc vous ne pouvez plus rien faire avec. Ce pouvoir, Allah lui avait accordé pour un laps de temps, pour qu'il puisse utiliser ces pouvoirs-là comme un fitna, détourner les gens du droit de chemin, et surtout tester qui croit ce qu'il y a de son cœur et qui croit ce qu'il voit avec ses yeux, ce qu'il entend avec ses oreilles. Ne jamais se laisser détourner du droit chemin par ses cinq sens. Ne jamais croire ce qu'on voit. Ne jamais croire ce qu'on entend. Ne jamais croire ce qu'on sent. Mais croire ce qu'il y a dans le cœur avec la lumière de la foi. Et là, je parle des signes à la fin des temps. Le croyant va voir des signes extraordinaires. Il va entendre, il va constater, il va manger de ce que Dajjal va faire se ressortir de la terre. Période de disette, de 3 années. Jamais l'humanité n'aura connu une telle famine. Plus de pluie pendant jusqu'à la 3e année. Et Dajjal claque des doigts, il se met à pleuvoir. Et il y a des fruits, des légumes qui sont... Des descriptions extraordinaires, des miracles qu'il va accomplir. Donc même celui qui va manger, qui va goûter, il ne doit pas croire en aucun... Et s'il voit des gens manger, profiter, il ne doit pas croire tout ça. Il doit croire uniquement ce qu'il y a de son cœur. Car c'est ce que le prophète m'a dit, fuyez quand voyez cet homme. Lisez sur les Kahf. Fuyez, ne le croyez pas. Et là, ça fait appel à la première qualité du croyant, Alladhina yu'minuna bil ghaib. Donc, pour revenir à une conclusion qui nous est un petit peu plus, qui nous intéresse un peu plus, même dans notre vie donc de tous les jours, réaliser que des créatures aussi effrayantes, des créatures aussi puissantes, jamais il n'y a eu des créatures aussi fortes que Dajjal et que Gog et Magog dans l'histoire de l'humanité. Le plus grand fitna, le prophète avait dit d'une manière générale, le plus grand fitna qu'Allah a envoyé sur ce dunya, c'est Ad-Dajjal, c'est l'antéchrist. À un tel point que chaque prophète, même les prophètes qui savaient que Dajjal n'allait pas apparaître dans leur communauté, prenaient soin de mettre en garde leur population contre eux, contre lui. Tous les prophètes mettaient en garde leur population, les croyants contre la venue un jour à la fin des temps de l'antéchrist. Mais malgré la puissance de cet homme-là, il n'arrive pas à se libérer de ses chaînes. Malgré sa force, malgré le fait qu'il ait déjà donné la mort et redonné la vie, quand il essaie de réactiver le même processus une seconde fois, il se rend compte qu'il n'a plus le moindre pouvoir. Et à ce moment-là, Dajjal devient un simple lieutenant ou chef d'armée, on va dire plutôt un tyran, d'accord, qui va diriger les gens, qui va diriger une armée, il ne peut plus accomplir maintenant de bien. Tout ça, c'est la qudrat d'Allah. Tout ça, c'est dans les mains d'Allah. Et les savants donnent d'autres exemples. Allez, on va donner encore un exemple, puis on va clore cette parenthèse. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam a dit que, sans rapport avec le sujet direct de la fin des temps, mais c'est juste, suivez le fil conducteur, il y a une logique dans tout ça. Le prophète a dit que quand vous vous couchez le soir et que vous avez un récipient, couvrez le récipient en disant Bismillah. Vous avez une carafe d'eau, un verre, je ne sais pas quoi, mettez ne serait-ce un mouchoir, un Kleenex ou n'importe quoi en disant Bismillah. Il dit, parce que ça m'explique, il dit que Shaitan ne peut, il ne peut pas découvrir un récipient ou n'importe quoi pour lequel on a dit Bismillah en couvrant. Alors que on a vu dans les différentes histoires ce que Shaitan est capable de faire, prendre l'apparence d'être humain, il a une force énorme qu'Allah lui a accordée, il est capable d'insuffler le mal, il est capable de nous faire voir des choses qui ne sont pas réelles, d'embellir les péchés, ainsi de suite. Bref, le pouvoir de Shaitan est connu, mais il n'est pas capable de découvrir un récipient. Il n'est pas capable d'ouvrir une porte où on a dit Bismillah. Il n'est pas capable de voir quelqu'un. Par exemple, le prophète dit également que lorsqu'une personne se change, lorsqu'on met des vêtements, d'accord, il faut toujours dire Bismillah. Parce qu'en disant Bismillah, les chayatines ne peuvent plus nous voir. Tout ça, ça nous fait comprendre que ça, c'est la qudrat d'Allah Azza wa Jal. Alors que par exemple, lorsqu'on compare avec l'histoire de Suleyman alayhi salam, lorsqu'il avait demandé, lorsqu'il voulait le trône de
la reine de Saba,
qui s'appelait
Bilqis,
d'accord, Allah t'accorde une Bilqis, inshallah. Lorsqu'il voulait le trône de Bilqis, il a demandé dans sa cour, c'est-à-dire parmi les gens qui étaient avec lui, qui est capable de me ramener le trône. C'était un trône gigantesque. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Je te l'amène en ce sens, hein. Je t'amène ce arche, ce trône, avant que tu te mettes debout, avant la fin de l'assemblée. Avant que tu te lèves, le trône est déjà là. Les savants disent, voyez la force que ce djinn avait. Puissance extraordinaire, capable de parcourir des centaines, des milliers de kilomètres et de ramener un objet énorme et de le poser à l'endroit où Suleyman alayhi salam souhaitait. Malgré ça, quand le nom d'Allah est prononcé, les shayatines et ainsi de suite ne peuvent strictement rien faire. Les savants disent, et on essaie de faire une relation entre tout ça, tout est une question de volonté d'Allah. Quand Allah a décidé qu'une chose ne se produit pas, quand Allah a décidé d'accorder une protection à une créature, la protection lui est garantie, même si en face vous avez les plus grandes forces qui se liguent contre vous. Et ça nous ramène vers un hadith de base, hadith le plus important peut-être de l'éducation des jeunes, des enfants. Quand le prophète m'explique à cet enfant, ô mon fils, ya roulam, hein, sache, garde toujours confiance en Allah, si tu as besoin d'aide, demande, sollicite Allah, et ainsi de suite. À la fin, il dit, sache que si l'humanité, si le monde entier se réunissait pour te faire du mal, il ne saurait rien te faire de plus que ce qui a été prédestiné. Et si le monde entier essaie de te causer du tort, il ne peut rien te faire si Allah n'a pas écrit pour toi ce mal. C'est-à-dire renforcer la conviction dans le cœur de ce jeune et dans le cœur de chaque croyant. Donc là, pareil, à travers ces événements, nous voyons qu'il y a certes une force énorme en face, mais qu'Allah a décidé que ça ne se produit pas, ça ne se produit pas. Et quand est-ce que ça va se produire? La suite du hadith, le hadith est magnifique de At-Tirmidhi, « Hatta idha balagat muddatuhum » C'est-à-dire, jusqu'à ce que l'heure soit venue, le moment fixé par Allah soit arrivé, wa arad Allahu an yab'athuhum 'ala an-nas, et quand Allah a décidé que c'est le moment pour eux d'apparaître et d'envahir la dunya, là Allah Azza wa Jalla va changer les asbab. Là Allah Rabbul Izza va inspirer dans le cœur d'une de ces personnes de dire quoi? De dire Inch'Allah. Hadith d'Imam Tirmidhi, je ne me trompe pas, dans d'autres Kutub Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, c'est-à-dire, et Imam Ahmad, c'est-à-dire hadith authentique, amplement authentifié. À ce moment-là, ils vont dire Inch'Allah, nous allons continuer demain, et à ce moment-là, Allah Azza wa Jal va leur donner la possibilité d'ébrécher ce mur qui était solide, inébranlable, comme le Coran l'a promis. Ce mur-là va être aplani et là ils pourront sortir parce que c'était là, ce sera là la décision d'Allah Azza wa Jal. Maintenant, juste revenir un petit peu, parce que ça c'est un point qui nous intéresse. Les signes de Qiyamah c'est bien, mais les leçons qu'on peut en tirer c'est encore mieux. quand on parle de cette île ou alors de ces cas de figure où les gens disent oui mais on n'a pas vu, on n'a pas découvert, peut-être que c'est pas vrai. Il y a deux anecdotes, deux histoires que tout le monde connaît. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté Makkah pour aller à Madina. Vous connaissez l'histoire, lorsqu'il a dû quitter Makkah et les jeunes de toutes les tribus des Arabes étaient présents donc pour le tuer, l'assassiner, il est sorti devant eux en lisant un verset du surah, du surah Yasin. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Ils n'ont pas pu voir, ils n'ont pas pu voir que le prophète donc passait. À ce moment-là, Allah Azza wa Jal avait enlevé la vue de ces gens-là pendant un laps de temps. Ce n'est pas qu'ils étaient devenus aveugles, mais ils voyaient tout sauf que le prophète sallam passait devant eux. Ça, c'est la qudra d'Allah Azza wa Jal. Également, une fois, il y avait, j'ai plus le nom de cette personne, quelqu'un qui voulait attaquer et faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète était dans une assemblée avec des sahabins. Il est venu menaçant. Il a dit : où est Muhammad ? Où est Muhammad ? Et les compagnons avaient peur qu'il frappe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était devant lui et il connaissait qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète était devant lui, il ne pouvait pas le voir. Et les sahaba sont restés silencieux. C'était là un mu'ajiza, un miracle également. Le prophète est devant lui, il ne peut pas voir. C'est-à-dire que quand Allah a décidé que, un, personne ne peut nuire une autre personne, et que les asbabs soient retirés, c'est là la décision d'Allah azza wa jal. Donc c'est pour ça que ça, ça doit nous faire comprendre aussi. Parce que parfois, on a tendance à sombrer, à s'orienter vers les madrasas aqliya, vers les écoles de pensée qui mettent la cohérence en avant. D'accord ? Pour eux, tout doit être logique et cohérent. Autrement, s'il y a une part d'invisible, de rêve, ça les gêne. Et ils essaient de trouver une interprétation. Bon, c'est pour ça que certaines personnes vont interpréter Dajjal comme d'autres choses. Ils vont interpréter Gog et Magog comme étant telle population et ainsi de suite. Parce que bon, il y a un côté de, il y a cette volonté de donner un sens concret à chaque chose, une interprétation. Tout comme il y a eu une certaine époque où des gens n'ont pas voulu accepter, n'ont pas voulu croire qu'Allah Azza wa Jal avait envoyé, subhanallah, des oiseaux pour détruire l'armée de l'éléphant. Ashabul fil, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. C'était quoi, Tayran à Babil? Il y en a qui donnent une autre interprétation. Ça, c'est l'école des madrasa aqliya qui veulent donner une interprétation logique, humainement acceptable, quitte à bafouer les textes, à bafouer le sens premier des textes, à refuter presque tout ce qui est invisible dans les textes, allant à l'encontre de tous les enseignements prophétiques. Ils ont dit que non, il n'y a pas eu d'oiseau, parce que c'est quelque chose qui est impossible. Une armée d'oiseaux avec des cailloux qui détruisent une armée d'éléphants et une armée d'hommes armés, c'est pas possible. Donc ils ont dit que non, ben, ils ont été touchés par un virus. Tayran Ababil, c'était une épidémie. Une épidémie qui les a touchés et ils sont tous morts, foudroyés comme, je sais pas, la choléra, malaria ou de la variole, des trucs comme ça. Bref, ils sont tous, ils ont été terrassés par la maladie et il n'y a pas eu de Ababil, de Tayran Ababil, il n'y a eu rien du tout. Donc c'est une interprétation qui essaie de trouver un sens logique, humainement acceptable, mais ça va à l'encontre de Alladhina yu'minuna bil ghaib. Parce que les sahaba, radiallahu anhu majma'in, ils acceptaient les textes comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait expliqués. Donc ça aussi c'est une notion extrêmement importante. Et ça nous permet de comprendre par la suite le deuxième point. Donc on a vu que régulièrement ils essaient de se sauver, ils essaient de casser ce baral de Dhulqarnayn, d'accord ? Mais il se fut une époque où il y a eu une petite faille. Il y a eu une petite faille. C'est un hadith très connu de lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit une fois à une de ses épouses: La ilaha illallah, wa ilu lil arab min sharrin qad iqtarab. Attention aux arabes, hein, le peuple arabe, contre un mal qui est en train de s'approcher. Futiha min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi. Aujourd'hui, il y a une brèche dans le mur, dans l'enceinte qui sépare Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj, de la race humaine, du reste de l'humanité, en faisant un signe avec ses deux doigts, en faisant un signe comme un petit rond entre son index, son pouce et son index. Alors maintenant, il y a deux approches, deux interprétations. Il y a par exemple Sayyid Qutb. C'est pas l'interprétation qui nous séduit le plus. Selon lui, ben ça prouve que il se fut une époque où il y a eu donc une faille et il y a eu une époque où les Gog et Magog sont sortis réellement. Et cette époque est passée. Et il interprète ça par exemple, les Tatars, comme on avait dit l'autre fois, les Tatars et... c'était quoi l'autre population qu'on avait dit également? Les Tatars et les... Et les Mongols, barakallah fik, les Tatars, les Mongols, et on avait vu l'histoire de Samarkand, on avait vu l'histoire de Bagdad et ainsi de suite. 100 000 personnes ont été tuées en une fois, c'était un des pires génocides de l'histoire de l'humanité. Donc, des personnes comme Sayyid Qutb, selon lui, ben ce signe, waqad waqa', c'est déjà produit à une époque, et Ya'juj et Ma'juj sont déjà sortis. Mais c'est une interprétation qui est totalement fausse, qui est erronée, qui ne peut être acceptée parce qu'elle va à l'encontre des autres hadiths. Il y a l'approche de l'imam Qurtubi rahimahullah qui est un peu plus correcte. Selon lui, ce qui s'est passé avec les Tatars, les Mongols, c'est comme une muqaddima, c'est comme, on va dire, un avant-goût, c'est un échantillon de cette population qui a eu un accès à l'extérieur, de le monde extérieur, et c'était un signe pour que la Ummah réalise quelle est la force de cette population. Cette interprétation-là, elle est plus proche du haqq, plus proche de la vérité. Parce que la véritable sortie, le déferlement de Ya'juj et Ma'juj, ça doit se produire après la mise à mort de Dajjal. Absolument. Ces deux signes-là ne peuvent pas se rencontrer. Dajjal et Gog et Magog ne peuvent régner en même temps de ce dunya. De même que Ya'juj et Ma'juj ne peuvent sortir tant que Isa alayhi salam n'est pas de retour sur terre. Parce que c'est au moment où les musulmans sont en train de, entre guillemets, fêter, hein, en train d'exulter après la mise à mort de Dajjal, de l'antéchrist, c'est à ce moment-là qu'ils entendent la nouvelle que Ya'juj et Ma'juj, ils ont fait leur apparition. Donc ça, c'est une suite chronologique et elle doit être respectée. Donc en aucun cas, on peut aller vers ces interprétations qui disent que oui, les Gog et Magog, hein, c'est pas vraiment des gens qui sont enfermés derrière une montagne, c'est une population, c'est une civilisation, et elle a déjà envahi le monde musulman, à Bagdad, à Samarkand, et ainsi de suite. Donc c'est un signe qui est terminé aucunement. En aucun cas, on ne peut accepter une telle interprétation parce qu'elle irait à l'encontre des textes. On peut tirer une conclusion par contre, quand Imam Qurtubi rahimahullah dit que la venue des Mongols et des Tatars, c'est un avant-goût, ça nous donne une idée, d'accord, de la force de ces Gog et Magog, mais on pourrait dire que si vraiment ces Tatars et ces Mongols ils font partie de la race des Ya'juj et des Ma'juj, ça nous donne une idée que, subhanallah, si avec une brèche, si c'est juste là un échantillon et ils ont été capables de tuer 100 000 personnes en une seule fois à Samarkand, que dire lorsque l'intégralité de la population de Ya'juj ou Ma'juj va déferler sur ce dunya? Quel génocide ils vont accomplir, quelle tuerie ils vont faire, donc à la fin des temps. Et donc pour revenir donc à cette histoire de mur qu'ils essaient de franchir, à un moment donné, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي. Subhanallah, si on avait le temps, franchement, mais on n'a pas beaucoup de temps, on aurait mis en avant chaque texte avec... Mais là, il faudrait une petite approche quand même de la langue arabe. On a vu déjà deux hadiths qui montrent bien que c'est quand Allah le voudra. Et là, le verset فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعْلَهُ دَكَّا. C'est lorsque la promesse d'Allah arrivera. C'est-à-dire quand Allah décide que c'est le moment de libérer Ya'juj et Ma'juj, c'est là que le signe aura lieu. Ce n'est pas une question, encore une fois, de force, de puissance, c'est une question de volonté d'Allah Azza wa Jal. Là aussi, l'autre hadith qui explique le thème, Inch'Allah, dit « فَإِذَا بَلَغَ الْأَمْرُ » Lorsque la situation sera propice, le moment sera venu, « أَلْقَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ أَلْسِنَتِهِمْ » Allah Azza wa Jal inspirera quelques individus parmi eux de dire « Inch'Allah, demain nous achèverons de détruire ce mur. » Donc tous ces textes, et il y en a beaucoup, on se limitera à quatre, montrent que c'est quand Allah Azza wa Jal le voudra que Ya'juj ou Ma'juj vont déferler. Maintenant, comment est-ce qu'ils sortent? حَتَّى إِذَا فُتِحَدْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَمِيًا سِلُونَ. Ils vont se précipiter de chaque hauteur. Dans les différents commentaires, les savants disent que ce verset et d'autres hadiths qui décrivent d'une manière générale la façon que Ya'juj et Ma'juj va déferler sur ce dunya, ça prouve qu'ils ne vont pas sortir tout d'un coup. Ce n'est pas qu'ils vont envahir le monde d'une seule fois. Non, en une seule fois. Ce sont là des sorties groupe après groupe. C'est-à-dire qu'il y aura un déferlement de Ya'juj et Ma'juj, ensuite un autre, ensuite un autre. De quelle façon, pourquoi de cette façon, Allah seul le sait. Mais c'est à la lumière des hadiths. Et un autre texte, on verra peut-être, là peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de temps, on verra la prochaine fois, c'est lorsque un groupe va passer près d'un fleuve, ils vont boire l'intégralité de l'eau de ce fleuve. Et un tel point que lorsqu'un autre groupe de Ya'juj et Ma'juj maintenant sort et il passe au même endroit, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Qu'il y avait un lac ici avant. Mais le lac maintenant n'existe plus. Les savants disent que, vous voyez, ce ne sont pas une bande, ce n'est pas une bande organisée qui sort en même temps. C'est des déferlements. Un groupe qui sort, un autre groupe, un troisième groupe. Et c'est de cette manière qu'ils vont donc envahir le dunya. Alors, lorsque Ya'juj et Ma'juj vont donc se libérer, ils vont envahir ce dunya, ils vont démarrer, ils vont commencer par Ash-Sham. Le premier endroit où ils vont se rendre, c'est Ash-Sham. Et là encore, les savants disent que la terre de Sham, c'est la terre, c'est une terre bénie. Ce sera le lieu de rendez-vous des gens pieux, des salihin. Les meilleurs des gens, à la fin des temps, se retrouveront dans cet endroit. On avait vu, lorsqu'on avait étudié la mise à mort de Dajjal, qu'il se trouvera où ça? En Palestine, donc la terre de Hacham. Lorsqu'ils auront passé le chemin près de Hacham, ils vont se diriger vers Al-Irak, vers l'Irak. D'accord? Et là, les savants disent que Al-Irak, ça a toujours été une terre de fitna. Barakallahu fik. Al-Irak, ça a toujours été une terre de fitna, une terre de trouble, une terre à partir de cet endroit qu'est venu et que continuera à venir les pires des calamités. Ça va être là pour ce soir, Inch'Allah. On a 31 minutes. Là, il reste quelques points encore abordés. Les dégâts qui vont causer de ce dunya, les gens qui vont s'enfuir, c'est le 8e point. Le 9e point, leur force. La force, la puissance incroyable de cette créature et le fait qu'il est interdit de livrer combat. 10e point, leur arrogance. Lorsqu'ils auront tué quantité d'êtres humains, mis à part les croyants et principalement les mu'mines qui seront rassemblés avec Isa alayhi salam sur une des montagnes de Palestine, ils auront la vie sauve. Mais quand les Ya'juj et Ma'juj voient qu'ils ont anéanti, ils ont tué, ils ont fait un génocide énorme de ce dunya, ils vont faire preuve d'arrogance. Et cette arrogance-là va causer leur perte. Parce qu'ils vont se dire que maintenant on a vaincu les gens de ce dunya, les gens qui habitent sur terre, on va en finir, na'oudhu billah, avec les habitants des cieux. Voyez leur arrogance. Et qui sait avant eux avait osé défier Allah? Donnez-moi un nom. Hein? Pas directement. Quelqu'un qui a déclaré la guerre, na'oudhu billah, Allah Azza wa Jal, directement. Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit à Haman? Ya Haman ibn li sarha la'alli ablugh al-asbab. Asbab as-samawati wal-ard fa'attali'u ila ilahi Musa. Na'oudhu billah. Il a défié. Il a dit que construisez-moi quelque chose que je puisse monter au plus haut pour attaquer, na'oudhu billah, le Seigneur de Moïse, le Seigneur de Moussa alayhi salam. Et quelle fut la destruction symbolique de Pharaon? Une destruction tellement terrible qu'Allah Azza wa Jalla a décrété que ce signe restera visible tout le temps. Et la momie de Pharaon, et ainsi de suite, reste accessible, reste visible, est un signe permanent pour ceux qui savent voir. Pas pour celui qui va dans un musée juste pour découvrir, mais pour quelqu'un qui comprend avec les yeux du cœur, avec la foi, avec le iman. Hada. Et donc, on était sur un point important là, en citant les différents points. Oui, voilà, leur arrogance. Il y a eu encore, à d'autres époques, Rostum, ça c'était un grand combattant des Perses, lui aussi, il a osé défier Allah, et Allah Rabbul Izzah a envoyé une vengeance extraordinaire sur lui. On pourrait dire que plus récemment, il y a eu un chef, il y a eu un président, on peut appeler ça, d'un pays. Il avait déclaré la guerre aux musulmans, par des termes très crus. Et Allah Azza wa Jalla a envoyé un signe énorme. Ça s'était passé il y a 5 ans à peu près, que l'élite de son armée navale a trouvé la mort dans un sous-marin. C'est vraiment un pays qui a une force navale, une des plus puissantes certainement parmi les pays modernes. Et l'élite, les lieutenants, je ne sais pas qu'on appelle ça l'amiral, enfin bref, les plus hauts gradés, ils étaient tous dans un sous-marin nucléaire. Et ce sous-marin était bloqué, il y a eu un problème et ils sont tous morts. Ils ont tous péri. Ils sont tous morts, il n'y a pas eu un survivant. Alors que les bateaux de sauvetage essayaient de tourner, de récupérer, ça essayait de comprendre comment remonter un monstre marin comme un sous-marin. Ils n'ont pas été capables, ils sont tous morts. Alors que quelques jours avant, il avait dit que je vais tuer ces musulmans du premier jusqu'au dernier et ainsi de suite. Et il y a eu là un signe d'Allah. Donc, on revient à ce qu'on disait, ça fait partie des moments forts de la destruction des Gog et Magog, leur arrogance. Ils vont envoyer des flèches vers les cieux. Et ces flèches vont retourner avec du sang. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'il ne faut pas croire à cette époque-là, ne pas croire ce que vos yeux voient. Il faut croire ce qu'il y a dans le cœur à la fois, le iman bil ghaib. Ils vont voir et ils vont se satisfaire de cette vision. Ils vont se dire, na'oudhu billah, qu'on a vaincu maintenant les habitants des cieux, qu'on est les meilleurs. Malgré leur force, Allah Azza wa Jalla va les détruire d'une façon quasiment invisible, d'accord? Et là, on verra comment est-ce qu'ils vont mourir, comment est-ce que les musulmans vont demander à Isa al-Islam d'invoquer Allah. Le hadith est beau, le hadith est magnifique, qui décrit comment Isa al-Islam va lever les mains, va demander doigt, et Allah Rabbul Izzah va envoyer sa nusra en trois étapes jusqu'à ce que ce signe va disparaître complètement de la surface de ce dunya. Bon, on ne va pas trop entamer ce qu'on a l'intention de dire plus tard, mais il y a quelques petits signes, hein, quelques petites anecdotes quand même à travers ces différents textes qui m'amènent, ça c'est une conclusion personnelle, hein, ce n'est pas la conclusion des grands savants, et ainsi de suite, qui m'amène vers une conclusion personnelle, c'est une certitude qu'à la fin des temps, tous les moyens modernes, les moyens de lutte, de guerre moderne, même l'électricité, les sources d'énergie n'existeront plus. Parce qu'il est dit dans les textes que pendant, là j'ai pas le hadith sous les yeux, oui, pendant 7 ans, 7 années, les croyants, les survivants, d'accord, ils vont utiliser les flèches, les lances, tout l'attirail des Gog et Magog pour faire du feu. Ce hadith prouve quel était le nombre, comment subhanallah, c'était un nombre extrêmement important. C'était une armée gigantesque, des millions, des millions, des millions de personnes, et que pendant 7 années, la Oumma va utiliser les lances, les flèches, tout ce qui est en bois pour brûler, pour faire du feu. Déjà, la nécessité de faire du feu, c'est quelque chose. Est-ce qu'on a besoin de faire du feu aujourd'hui? On n'en a pas besoin. Et deuxièmement, ça prouve bien quelles seront les armes qui sont avec ces gens. Donc, c'est des armes rudimentaires, d'accord? Maintenant, si, comme certains, chacun a sa vision des choses, hein, certaines personnes disent non, quand on parle d'armes, de chevaux, c'est des métaphores. Le cheval, ça peut bien être un tank, ça peut bien être un, je ne sais pas comment on appelle ça, d'autres trucs de guerre moderne. Mais quel rapport on utilise ça à brûler pour faire du feu? Vous voyez que là, il n'y a plus, ça ne se concorde plus, l'analogie ne passe pas à un moment donné. Donc, moi, j'ai une certitude qu'à la fin des temps, et puis vous savez, vous avez Gog et Magog qui défèlent, qui est en train d'envahir le dunya. D'accord? Un pays se sent menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie une tête nucléaire ou deux et puis exterminer. Chose qui ne sera pas possible. Donc tout ça prouve bien qu'à un moment donné, il n'y aura plus autant de moyens de communication. Il n'y aura certainement plus des sources d'énergie qui sont les nôtres de nos jours. Donc on verra ça. Et on verra également la baraka, la bénédiction. Ce sera les plus belles années de ce dunya. Après la destruction de Gog et Magog, ça va durer 7 années, 7 années de bonheur total. Et le dernier point qu'on va voir, c'est qu'après Ya'juj et Ma'juj, la vie reprend normalement. Les gens vont continuer à faire Hajj, vont continuer à faire Umrah. Les hadiths décrivent que les gens vont aller à Mecca pour le petit pèlerinage, pour le grand pèlerinage, après la destruction de Ya'juj et Ma'juj. Et après ça on verra donc, bon, il y aura donc encore une prochaine fois donc ce Ya'juj et Ma'juj. Et après ça, on peut dire qu'on aura terminé avec la plupart, on va dire pas tous les grands signes, la plupart des grands signes de Qiyama, parce qu'après la destruction de Gog et Magog pendant 7 années, le règne du Amir Mu'minin, Isa al-Salam, et après 7 années, Isa al-Salam va mourir, il y a encore une période où les croyants vont, mashallah, ils vont avoir ce qu'ils veulent, mais après ce sera les pires des années de ce dunya, où peu à peu, Allah Azza wa Jal va reprendre tout ce qui est important pour la Ummah. On appelle ça durus al-islam. C'est l'islam va diminuer, va disparaître peu à peu, mais c'est pas une perte de foi, c'est pas un massacre, c'est Allah Azza wa Jalla va reprendre l'islam, d'accord? Et les gens vont retourner vers l'ignorance, ceux qui ont la foi vont mourir, d'accord? Allah Rabbul Izzah va reprendre hein, le hurma de sa Kaaba, le Coran, et la bête va sortir, ainsi de suite, et le soleil va se lever donc à l'ouest. Et puis ce sera le Dabba, la bête ce sera prêt, le feu qui va rassembler les gens, et puis ce sera la destruction totale de ce dunya. Donc ce qui nous reste à voir, Inch'Allah, pour la prochaine fois, c'est la force, la puissance, à partir du moment où on parle du défaillement de Ya'juj ou Ma'juj, le façad, le désordre qu'ils vont causer sur ce dunya, jusqu'à l'intervention et les doigts de Isa a.s. Et là aussi, on verra cette leçon magnifique que face à une armée puissante, il n'y a pas forcément besoin d'une opposition avec force physique et armes. C'est juste en levant les mains. Isa a.s. lève les mains et Allah envoie sa nusra et cette puissante armée sera détruite du premier jusqu'au dernier. Ce sont là des leçons de yaqin, des leçons de conviction qu'on doit essayer de comprendre à travers ces événements de la fin des temps. Qu'Allah Rabbul Izzah nous tawfiq de comprendre ces quelques paroles, augmente notre yaqin en lui. Si on est bien sûr capable de croire à des choses extraordinaires, on doit être capable, comme on le dit tout le temps, de croire aux mises en garde des textes, des hadiths, contre celui qui n'accomplit pas ces salats, contre celui qui consomme du riba, de l'intérêt, contre celui qui a recours au sihr, à la sorcellerie, et ainsi de suite. C'est-à-dire des péchés qui sont, excusez-moi de dire, plus accessibles, hein, des choses qui sont un peu plus, qu'on arrive à cerner. Et on doit avoir encore plus de conviction que ces mises en garde sont réelles si on est capable de croire à des signes aussi extraordinaires. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alamin.